Merci pour le privilège de m'adresser à vous cet après-midi. La grâce irradiante, comme Sam ce matin, lorsque j'ai vu le titre que les organisateurs m'avaient demandé de traiter, j'ai tout de suite pensé à des abris anti-atomiques. Alors, je suis allé voir une définition du terme sur Internet, et la première définition sur laquelle je suis tombé était quelque chose du genre rayonner, irradier, c'est-à-dire rayonner de manière à affecter l'environnement ou l'entourage. Exemple, son sourire irradiait autour d'elle. Je dis ça va, on se rapproche un peu plus du thème de la thématique de la grâce. En parlant de la grâce de Dieu, nous ne devons pas oublier qu'elle n'est pas seulement une réalité théologique ou une composante du salut que Dieu nous offre. Elle est ces choses, mais pas seulement. Chacun reconnaît que la grâce intervient lorsque Dieu pardonne aux pécheurs repentants, mais l'attitude de nombreux chrétiens pourrait, ou de certains chrétiens, pourrait donner l'impression que la vie spirituelle doit ensuite, par la suite, se construire avec du matériau un peu plus solide, on va dire, un peu plus sérieux. La croissance spirituelle s'accompagne ainsi souvent, malheureusement, d'une fossilisation de la grâce qui cède la place à la rigueur, à la discipline, à la réunionnite, aux règles à respecter. La grâce reste une puissance motrice dans notre vie quotidienne. Elle est un carburant qui fait tourner le moteur de notre foi. Elle est décrite dans les Écritures comme une force de douceur et de pardon qui emporte tout sur son passage. Dans sa seconde lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 9, Paul parle de la grâce surabondante. Déjà la grâce, c'est extraordinaire. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises pendant depuis 24 heures que nous sommes ensemble. Mais la grâce surabondante, j'aime ce mot surabondant. D'une certaine façon, le torrent d'amour et de grâce de Dieu coule de manière inéluctable. La grâce avance, elle n'est jamais statique. Dans la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 4, Paul écrit la chose suivante, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Ou pour lire dans la Bible à la colombe, « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde, en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Que la grâce abonde. L'expression est belle, mais Paul souligne que cette abondance est pour lui, en tant qu'évangéliste, vous l'avez certainement remarqué, cette grâce est pour lui en tant qu'évangéliste, cette abondance, pardon, est pour lui en tant qu'évangéliste une motivation coûteuse. Il doit endurer beaucoup de choses pour que cette grâce abonde. Pas question de laisser croire, bien sûr, que l'abondance de la grâce serait due à ses efforts à lui. Mais il souligne, et ce n'est pas le seul texte qui en parle, qu'il a aussi un rôle à jouer en tant que transmetteur, en tant qu'agent de la transmission de cette grâce. Comme pour beaucoup d'aspects de la vie chrétienne, la transmission de la grâce de Dieu est une collaboration entre lui et nous. Cette collaboration exige de notre part de chercher un équilibre. Et cet équilibre, pour tout chrétien, c'est tous les jours. Un équilibre entre ce que nous avons à faire et ce que nous devons laisser Dieu faire. Ce n'est pas toujours facile. D'une part, il nous faut nous rendre disponibles pour qu'il fasse rayonner sa grâce, que Dieu fasse rayonner sa grâce. Mais notre responsabilité est engagée. Il nous faut aussi réfléchir à l'efficacité de ce rayonnement. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'en limiter la portée. Dieu nous a donné des compétences. Il nous a donné de l'intelligence. Utilisons-les pour affiner notre façon de faire. La grâce irradie, oui, mais Dieu choisit généralement de la faire irradier par nous, ses enfants. Et c'est autour de cet équilibre délicat que nous réfléchissons ensemble cet après-midi. La part de Dieu dans le rayonnement de la grâce et la part des femmes et des hommes qui l'utilisent pour la faire rayonner. J'aimerais vous inviter, après quelques mots de témoignage personnel, à réfléchir avec moi à ces rayons dont il est question. De quelle grâce, de quel rayon de la grâce s'agit-il, la grâce irradiante? Nous allons parler de ce double rayonnement de la grâce mise en pratique, la chaleur et la lumière. Nous parlerons ensuite de l'impératif biblique de la mise en pratique de la grâce. Et nous terminerons par le constat que nous observons souvent une absence de grâce. Et en cela, nous regarderons ensemble peut-être quelques obstacles. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive, mais quelques obstacles à la mise en pratique de la grâce. Mais tout d'abord, quelques mots de témoignage personnel. Pendant l'été de 1998, j'ai entamé un processus de guérison intérieure qui, après un conflit d'église, qui ne s'achèvera que dans l'éternité. Mais ce processus, qui dure encore d'une certaine façon, je l'avoue, a complètement réorienté ma vision de Dieu. J'exerçais déjà un ministère à plein temps depuis 8 ans. Je suis en France, en fait, depuis 45 ans. J'exerçais déjà un ministère à plein temps depuis 8 ans et j'avais depuis longtemps remis ma vie entre les mains de Dieu. Mais cet été-là, j'ai vécu une seconde conversion, je pense, dans le premier sens du mot, un changement de direction, une réorientation de ma façon de faire et de voir. Tout d'abord, c'est l'été où j'ai appris que les chrétiens n'étaient pas tous gentils et agréables. Que la cruauté et la bêtise se rencontrent aussi au sein des communautés que nous appelons Église. Avant cela, je savais que les convictions divergentes avaient conduit à différentes familles d'Église. J'avais entendu parler de tensions, de désaccords et de divisions entre les chrétiens. Et j'avais observé un peu de leur influence, de leurs effets dans mon entourage. Mais je n'en avais jamais subi personnellement l'impact. À l'adolescence, la première vraie peine de cœur bouleverse notre univers et nous apprend que l'affection portée à autrui peut être douloureuse. De même, cet été-là, j'ai découvert la dimension de vulnérabilité à laquelle nous expose le ministère chrétien. Et avec mon épouse Amanda, nous avons démissionné de la petite église que nous avions fondée et à laquelle nous avions consacré 8 ans de service chrétien. À l'époque, j'avais un ami, un proche ami, qui se savait mourant du sida. Avec Amanda, nous avions accompagné Pierrot pendant qu'il cherchait timidement à renouer avec le Seigneur qu'il avait connu dans son enfance et dans sa jeunesse. Il avait été moniteur d'école du dimanche dans une église évangélique, comme nous les connaissons tous. Il avait perdu son chemin spirituellement. Et voilà que sa double vie homosexuelle avait révélé tout un monde dont sa femme n'était pas consciente. Il avait perdu la garde de ses enfants. Sa femme l'avait mis dehors et il allait mourir, il le savait. Il comptait sur moi pour faire ses obsèques, pour présider ses obsèques le moment venu, et il voyait cela comme le moment, comme une occasion d'annoncer l'espérance en Christ à tous ses proches. Et c'est ce que j'ai fini par faire 3 ou 4 ans plus tard. Mais en 1998, j'ai dû lui dire que j'avais quitté mon rôle de responsable d'église. Il en a été atterré. Vous savez, il y a de ces conversations, et je suis sûr que vous en avez vécu aussi, il y a de ces conversations où le regard de votre interlocuteur reste imprimé dans votre esprit pour de bon. Et c'est ainsi que je me souviens de cette conversation avec Pierrot. Il était complètement désemparé. Et j'ai perçu ce jour-là un peu plus de l'impact de nos disputes et de nos manques de grâce entre chrétiens. Impact sur ceux qui nous observent, amis et connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur, sur nos enfants, sur les chrétiens mal affermis. Pendant la même période, j'ai lu un excellent livre de Philippe Yancey, « Touché par la grâce ». Dans cet ouvrage, Yancey semble parler justement du regard que j'avais vu sur le visage de Pierrot ce jour-là. Ce désarroi d'un monde qui comprend qu'il ne trouvera pas auprès des chrétiens ce qu'il pensait y trouver. Yancey avance l'idée que l'une des principales explications à cette déception est le manque de grâce. En tout cas, l'incompréhension de ce qu'est vraiment la grâce. Il commence avec un récit que j'aimerais vous lire. C'est une histoire vraie. C'est par un ami qui travaille auprès des laissés pour compte à Chicago que je l'ai entendu, écrit Yancey. Et voici le récit qui lui est donné par cet ami. Une prostituée est venue me voir. Elle était dans une situation terrible, sans domicile, malade, dans l'impossibilité d'acheter à manger pour sa petite fille de 2 ans. À travers ses sanglots et ses larmes, elle m'a raconté que, moyennement finance, elle offrait sa fille de 2 ans à des hommes sexuellement dépravés. Elle gagnait plus en louant sa fille pendant 1 heure que toute seule de son côté en une nuit entière. Elle était contrainte de le faire, disait-elle, pour pouvoir pourvoir à son besoin de drogue. J'ai eu du mal à supporter le récit de son histoire sordide parce qu'elle me rendait légalement responsable. En effet, je suis dans l'obligation de signaler des cas d'abus sexuels sur les enfants. Je ne savais vraiment pas quoi dire à cette femme. Finalement, je lui ai demandé si elle avait déjà songé à chercher de l'aide dans une église. Je n'oublierai jamais le regard de pure stupéfaction naïve qui est passé sur son visage. Une église, s'est-elle écriée ? Qu'est-ce que j'irai y faire ? J'ai déjà tellement honte de moi. Il ne ferait qu'empirer les choses. Le reste de ce livre de Philippe Yancey concerne cette affirmation. Le témoignage de l'Église de Jésus-Christ dépend de la volonté et de la capacité des chrétiens à renouer avec une pratique de la grâce. L'efficacité de ce témoignage, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans cette action divine dans la vie des hommes et des femmes que nous côtoyons, l'Église n'aurait bien sûr pas d'avenir. Et nous savons, de plus, qu'il est salutaire de ne pas chercher auprès des personnes ce que Dieu seul peut donner. Tout chrétien doit parvenir à un point où il ou elle ne dépend plus des autres chrétiens, fussent-ils anciens, responsables ou pasteurs, pour se nourrir de la grâce de Dieu. Car les hommes décevront toujours, les femmes aussi. Mais pour une raison qui me dépasse, Dieu choisit souvent de passer par nous, les hommes et les femmes qu'il appelle ses enfants, notamment pour la transmission de la grâce auprès de ceux qui nous observent. Mais interrogez un peu ceux et celles qui ont grandi dans nos assemblées et qui ont rejeté la foi, ou en tout cas qui se sont désengagés de la vie d'Église, notamment nos enfants. Dans de très nombreux cas, ils évoqueront le manque de grâce comme raison de leur dégoût de l'Église, voire de leur rejet de la foi. Or, ils n'utiliseront pas forcément ces mots, mais c'est très souvent le manque de grâce qui est au cœur du problème. Alors, cette grâce irradiante, de quel rayon s'agit-il ? Je crois que c'était dans le temps de chant hier que le texte de 2 Corinthiens 4, verset 6 a été cité. En effet, le même Dieu qui un jour a dit « Que la lumière brille au sein des ténèbres » a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Ce verset trouve un écho dans le célèbre passage d'Apocalypse 22 qui parle de ce jour final, de ce moment où nous rejoindrons le Seigneur et qui dit « La nuit ne sera plus et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Vous avez noté le vocabulaire ? Briller, resplendir, rayonner, éclairer. L'image est forte et en me demandant de traiter de la grâce irradiante, c'est bien de l'évocation de cette dimension de la grâce que les organisateurs de ce congrès m'ont demandé de traiter. Irradier, c'est rayonner. La grâce de Dieu dans son dynamisme est comparable au rayonnement du soleil. Que nous apporte le rayonnement du soleil ? Deux formes de rayonnement évidentes et facilement perceptibles, la chaleur et la lumière. Dans notre pratique, la vraie grâce est un équilibre de ces deux rayonnements. La grâce accueille avec chaleur, avec le sourire. Elle donne envie de rester auprès de celui qui en est la source et auprès de ceux et celles qui la portent dans le concret de leur témoignage et de leur vie d'église. Mais la grâce n'est pas grâce à moins d'illuminer aussi, d'éclairer de sa vérité. C'est cela d'ailleurs qui distingue la vraie grâce de la grâce à bon marché, pour reprendre Bonhoeffer. À deux reprises dans Exode, Dieu dit « Je ne tiens pas le coupable pour innocent ». Éric a évoqué cette réalité hier. Romains chapitre 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. La colère de Dieu, le jugement divin. Comment équilibrer notre message entre le jugement divin sur le péché et la grâce divine pour le pécheur ? Attention, bien sûr, à ne pas confondre grâce et indulgence. La grâce chemine côte à côte avec la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, la venue lumineuse, éclairante de Jésus sur terre nous est décrite comme grâce, il est venu apporter la grâce et la vérité. À deux reprises, verset 14 et verset 17. L'indulgence, parfois confondue avec la grâce, est un mensonge contraire à la vérité, car elle minimise les effets de l'offense. Devant le péché, le mal, la chute ou l'infidélité, la grâce ne dit jamais « c'est pas grave ». La grâce dit toujours « c'est très grave, mais je t'aime quand même. Viens, on va en parler ». Qu'éclaire donc ce rayonnement de la grâce ? La grâce de Dieu éclaire notre vision de nous-mêmes. Premièrement, notre vision de nous-mêmes. Une des caractéristiques de la grâce, de la vraie, c'est qu'elle ne se mérite pas. Nous l'avons déjà vu. Aucune action méritoire ou belle ne peut nous faire bénéficier d'un bonus de grâce. Mais il est aussi important de réaliser qu'aucune chute, aucun péché, aucun échec ne peut nous charger d'un malus de grâce. Je ne peux rien faire qui amène Dieu à m'aimer plus ou moins qu'il ne m'aime déjà. Cette vérité est exprimée dans le psaume 139. Je vous inviterai à l'ouvrir si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez simplement en écouter ma lecture. Je lirai les 12 premiers versets du psaume 139. Nous les connaissons presque par cœur. Ô chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. En lisant ce psaume, écoutons-nous, David, écoutons-nous l'écho de toutes les aventures qu'il a vécues avec Dieu. Vous les entendez, tous ces épisodes de la vie de David, ces moments où il explose de joie à l'idée de la grandeur de Dieu et de sa révélation, de sa façon de traiter l'être humain. Et puis, ses souvenirs de tous ces moments où il aurait tellement aimé pouvoir se cacher du regard de Dieu. Ces moments où il aurait aimé aller aux confins de la mer, aux extrémités de la terre, dans l'espoir d'échapper au regard panoptique de Dieu. Ce regard ne nous est pas toujours confortable, n'est-ce pas? Ce que ce psaume nous apprend ou nous rappelle, c'est que nous ne pouvons pas surprendre Dieu. Lorsque nous faisons connaissance avec quelqu'un, et c'est souvent le cas dans un congrès comme celui-ci, nous avons tendance à mettre en avant les réalisations, le côté positif. Brad nous en parlait un petit peu ce matin. Ces chiffres qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Nous dissimulons nos failles lorsque nous faisons connaissance autour de la salade de carottes au restaurant. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous ne pouvons ni l'impressionner, ni le choquer. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que nous ne pourrons jamais l'impressionner par notre érudition biblique, notre fidélité doctrinale, notre connaissance de l'historique de notre dénomination d'église, notre efficacité d'apologète ou les heures passées à le servir. Nous pouvons le réjouir, mais nous ne pouvons pas l'impressionner. Dieu ne nous dira jamais, « Eh ben, bravo, chapeau, hein, je ne m'attendais pas à ça de toi. Excellent !» Mais également, nous ne pouvons pas le décevoir. Nous pouvons l'attrister parce que son amour pour nous l'a rendu vulnérable à la tristesse de nos actes de péché. Mais nous ne pouvons pas le décevoir. Et à cause de ça, aucun échec ne condamne notre avenir. Le plus beau, c'est que Dieu nous connaît entièrement. Vous l'avez mesuré, ce entièrement ? Dieu nous connaît entièrement et il est quand même de notre côté. Cette vérité est extraordinairement rassurante. En lisant ce psaume, je repense au premier mois de la vie de nos deux garçons et j'ai leur autorisation pour vous raconter cette histoire. Lorsqu'ils étaient petits, bébés au berceau, avec mon épouse, nous nous mettions autour d'eux de temps en temps alors qu'ils dormaient, faisaient la sieste de l'après-midi. Et nous les regardions en train de dormir dans leur berceau. Oh, t'as vu ces petites joues, regarde la forme parfaite de ses oreilles, regarde ces petites lèvres là. Tu te rends compte, c'est comme les tiennes, ma chérie. Et puis, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé à l'hôpital de me réveiller et d'avoir une infirmière qui me regarde dans les yeux, parfois avec une lampe. Ça fait peur. Vous ouvrez les yeux d'un profond sommeil et puis vous avez un visage à quelques centimètres du vôtre. Lorsque penché sur le berceau de notre bébé, il ouvrait les yeux. Comment vous croyez qu'il a réagi? Il a sursauté? Non. Le sourire. Grand sourire sur le visage. Pourquoi? Parce que maman et papa étaient symboles, étaient signes de tout ce qu'il y avait de bien et de rassurant dans sa vie. Vous savez, c'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est comme ça que Dieu veut que nous tournions notre regard vers lui. Parce qu'il est, dans sa grâce, à cause du sacrifice de son Fils à la croix, de notre côté. Et il sourit lorsque nous nous tournons vers lui et nous pouvons à notre tour lui rendre son sourire. C'est ça la grâce. D'ailleurs, cette illustration de la relation avec Dieu trouve un écho dans le verset 18 de ce même psaume où David dit « Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Et puis la grâce de Dieu éclaire notre vision des autres. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Ce verset situe clairement la grâce dans une dynamique de transmission. Dieu vous a fait grâce à vous, et donc vous allez faire grâce aux autres. Il nous demande de porter sur les autres le regard qu'ils portent sur nous. De manière plus percutante, peut-être, nous pouvons dire que nous sommes appelés à porter sur les autres le même regard de Dieu pour lequel nous le louons et le remercions chaque fois que nous ouvrons la bouche le dimanche matin pour chanter un chant de louange, chaque fois que nous prions « Seigneur, merci pour ta bienveillance envers nous », chaque fois que nous remercions Dieu pour quelque chose de positif parce qu'il nous regarde avec grâce, eh bien, il nous demande de regarder les autres de la même manière. Nous aimons parce que nous sommes aimés. Si l'amour de Dieu est une maison, la grâce n'est pas seulement la porte d'entrée. Elle est aussi les fenêtres par lesquelles nous regardons les autres voyageurs s'avancer sur le chemin qui mène à cette maison. La grâce est la fenêtre par laquelle entre la lumière de Dieu dans notre vie et nous permet par la même occasion de voir cheminer les autres chrétiens vers la maison du Père. Il s'agit de mettre les verres de la grâce pour regarder les autres à travers ses lunettes, afin de les voir comme Dieu les voit. La grâce de Dieu, la grâce regarde chacun, même les gens repoussants, en se disant « Je me demande ce qu'il ou elle, ce que l'amour de Dieu pourrait faire chez lui ou chez elle. Je me demande ce que l'amour de Dieu pourrait faire chez lui ou chez elle. » Nous avons déjà évoqué plusieurs des impératifs bibliques de la mise en pratique de la grâce. Mais j'aimerais souligner quelques autres considérations bibliques majeures dans ce domaine. Parce que rayonner la grâce est une composante fondamentale de notre évangélisation. Rayonner la grâce, vous savez, n'est pas une option possible, envisageable. Si nous avons réuni d'autres aspects de notre vie d'église, de notre témoignage, eh bien, ouais, la grâce, c'est quelque chose de bien, il faut y penser. Hein. Ce n'est pas un choix comme ça. Rayonner la grâce n'est pas un moyen parmi d'autres d'être un bon chrétien. Bien sûr, il ne s'agit pas de transmettre la grâce elle-même. La grâce n'est pas une fin en soi. Mais transmettre la grâce est le moyen de transmettre l'évangile. L'enjeu, ce n'est pas que les gens trouvent les chrétiens sympathiques. L'enjeu, c'est notre rôle de leur faciliter l'accès à Dieu. D'ailleurs, on a même parfois l'impression, en lisant certains textes des Écritures, que les mots « grâce » et « salut » sont presque interchangeables. Par exemple, lorsque Pierre écrit « Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Grâce et salut ensemble. 1 Pierre 1, 10. Et puis j'ai déjà mentionné 2 Corinthiens 4, 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Pourquoi ? Pour que la grâce abonde, en atteignant des hommes toujours plus nombreux. La grâce n'est pas seulement donc un impératif pour notre évangélisation. La grâce est aussi quelque chose qui doit inspirer notre relation avec tout le monde. Ce que Paul, dans Colossiens chapitre 4, appelle par exemple « ceux du dehors ». J'aime pas trop cette expression, mais Paul l'a utilisée, donc je la reprends. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. J'aime beaucoup ce verset. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Il y a énormément d'implications importantes dans ce verset. Ce verset implique des relations qui appellent de la réflexion et de la sagesse de la part des chrétiens. Vous l'avez noté. Ce verset implique aussi des questionnements de la part de ceux qui nous observent. C'est quoi cette histoire de religion ? Pourquoi qu'est-ce que vous faites tous les dimanches matins là, en sortant votre voiture du garage ? Les gens qui vous côtoient vous questionnent. Je me souviens d'un dessin humoristique dans le bulletin d'une église il y a quelques années qui montrait une sorte d'église château fort. On voyait bien que c'était une église, mais il y avait aussi une sorte de remparts. Puis il y avait des douves, vous savez, un fossé avec de l'eau. Et puis il y avait deux personnes de l'autre côté, sur le devant de l'image, qui regardaient au loin cette église château fort. Et qui se disait, il y en a un qui disait à l'autre, « Oh, ils sont en train de baisser le pont-levis, ils doivent préparer une campagne d'évangélisation. » Paul supposait que les chrétiens intrigueraient leur entourage. Nous sommes loin de certaines églises que j'ai connues qui limitent leur contact avec le monde extérieur à l'annonce de certaines vérités. Notre mise en pratique de la grâce, si nous y veillons, donne à ceux qui nous observent l'occasion de vérifier notre authenticité. Et puis, j'aimerais vous proposer une autre raison, un autre impératif biblique de notre mise en pratique de la grâce. C'est que Jésus se préoccupait beaucoup de l'avis de ceux qui observaient ses disciples. Jean 17, c'est la prière sacerdotale, nous le savons. Ce n'est pas seulement pour eux, pour les disciples que je prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Parmi les priorités que Jésus exprime en priant pour les disciples juste avant la croix, nous observons son souci de l'opinion des autres qui regardent vivre les chrétiens. Et au cœur de cette préoccupation, deux facettes du témoignage, l'unité et l'amour. On dit que cette prière est l'une des trois prières non exaucées de Jésus. Pas toujours facile de trier entre les domaines où nous devons tenir compte de l'avis des autres et les domaines où nous n'avons pas à en tenir compte. Il y a des aspects de la foi qui seront toujours difficiles à faire comprendre aux gens. Paul le sait et le souligne dans sa première lettre aux Corinthiens, la folie de la croix. Difficile de la communiquer à ceux qui ne la connaissent pas. Impossible de la présenter d'une manière qui soit acceptable. Mais pour d'autres éléments de la foi, ce n'est pas pareil. Je me souviens où, après avoir grandi dans une famille chrétienne, qui m'a bien dit « Témoigne pour Jésus, t'en fais pas, tes copains se moqueront de toi de toute façon. » Tes copains, hors de question que j'ai des copines, ça. Tes copains se moqueront de toi de toute façon, t'en fais pas. Et je remercie mes parents pour la charpente spirituelle, l'ossature qu'ils m'ont donnée en m'élevant dans une famille chrétienne. Puis je me souviens aussi du jour où j'ai compris que ce n'était pas obligatoire d'être bizarre pour être un chrétien efficace. Et qu'avec un peu de sensibilité et de jugeote, on pouvait grandement améliorer l'image que nous donnons de la foi chrétienne. Jésus est mort pour nous sauver, pas pour nous rendre plus bizarres. Pratiquer la grâce est une façon de glorifier Dieu. Dernière de mes raisons bibliques, motivation biblique de mettre en pratique la grâce. Comme a dit Eric hier, la gloire de Dieu, le fait remarquable qui le singularise, c'est sa bonté et sa grâce. Nous le glorifions quand nous mettons en pratique sa bonté et sa grâce. Quand nous l'imitons, imiter, hein, du verbe imiter, quand nous imitons Dieu dans cette dimension de sa relation avec l'être humain. Quelques obstacles à la grâce pour terminer. Les raisons qui pourraient nous empêcher de rayonner la grâce, d'irradier la grâce. Il s'agit en quelque sorte d'une liste de pièges et vous y retrouverez certainement un écho de la liste des pièges que Brad nous a détaillé ce matin. Premier piège, et ça je l'ai entendu un jour, on m'a accusé d'avoir un dada dans mes prédications. On m'a accusé d'avoir le dada de la grâce. J'assume, ça a été ma réponse. Mais j'ai souvent entendu exprimer d'une manière ou d'une autre la crainte que la grâce nous empêche d'être clair sur le péché. J'ai déjà mentionné que la grâce qui atténue la gravité du péché n'est pas de la vraie grâce. Sans la grâce pour le pécheur, nous amputons la vérité sur le péché de la moitié de sa réalité. La doctrine biblique du péché, bien comprise, est libératrice, et c'est en raison de la grâce qu'elle est libératrice. Le péché biblique n'est pas un échec regrettable ou une faiblesse inévitable. Selon la Bible, le péché est une offense personnelle contre un être qui nous aime. Pour ce monde, l'offense signifie généralement la rupture, la douleur, le brisement. Avec la grâce, l'offense a une issue. Elle peut même devenir un tremplin vers une relation plus belle qu'avant. Il y a un autre piège qui est celui de craindre de ne pas maîtriser les conséquences. Oui. La grâce, c'est aussi la manière de traiter les faibles, les petits, ceux qui posent des questions difficiles. C'est la manière de traiter ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui ne figureront pas comme de belles statistiques dans nos rapports sur les membres ou les assistants de nos églises, de nos cultes. Nous redoutons, en tant que gens de la parole, du livre, de la vérité révélée de Dieu, nous redoutons les circonstances qui échappent à notre contrôle. J'en veux notamment pour preuve le nombre de livres que Brad nous a cités sur la puissance. Nous redoutons les circonstances qui échappent à notre contrôle. Mais la vulnérabilité est un des éléments qui conditionne l'amour. Nous pouvons le faire pour deux raisons. Être vulnérable à ce qui nous échappe, à ce que nous ne maîtrisons pas. Nous pouvons le faire pour deux raisons. Tout d'abord, Dieu l'a fait avant nous. Son amour l'a poussé à la vulnérabilité de créer l'être humain qui pouvait le refuser. Dieu l'a fait avant nous. Et la deuxième raison, c'est que Dieu maîtrise. Nous n'avons donc pas besoin d'en faire une inquiétude. Et puis, en constatant les dégâts long terme des manques de grâce, par exemple, notamment dans les conflits d'église, il est évident que le désir de maîtriser et de contrôler provoque plus de dommages par sa rigidité que l'acceptation de l'inattendu et de la surprise n'en provoque par leur souplesse. Un autre piège, c'est la crainte d'être pollué. Jésus n'était pas déstabilisé par la contradiction. Jésus ne craignait pas d'être pollué par sa fréquentation de gens qui, aux yeux de beaucoup, ne méritaient pas la grâce de Dieu. Il n'avait pas peur d'être... Il était connu pour ses fréquentations des gens en marge de l'institution religieuse. Il ne se préoccupait pas de ce que les gens pensaient de lui sur ce point-là, du moment que la grâce de Dieu était accessible à chacun. On m'a dit, « Oh, mais Jésus était Dieu, il savait la vérité des motivations des gens, il lisait dans leur cœur. Nous n'avons pas cette capacité, nous ne pouvons pas nous le permettre. » Je suis étonné de ce raisonnement, comme si nous devions imiter Jésus dans tous ses comportements, sauf celui-là, comme si Dieu n'avait pas la capacité de nous conduire aussi dans ce domaine, du moment que nous restons attachés à sa parole et unis à lui dans la communion du Saint-Esprit. Et puis, dernier piège que j'aimerais soulever avec vous, les gens graciés et libres ne font pas de bons suiveurs d'hommes. Les gens graciés et libres ne font pas de bons suiveurs d'hommes. Ceux qui cherchent des disciples pour leur propre compte n'apprécient pas trop la grâce. Vivre la grâce consiste à apprendre à voir les convictions comme des éléments constitutifs de la vie chrétienne, mais sans en faire des tests de la fiabilité, de la fidélité ou de la fréquentabilité de l'autre. J'ai inventé ce mot. Pour un responsable d'église, de communauté, de projet, les règles et les marques de conformité permettent de trier entre ceux qui seront efficaces dans la vision commune et ceux qui seront peut-être chronophages ou ne feront pas ce qu'on veut qu'ils fassent. Pour un responsable d'église, les règles et les marques de la conformité permettent de trier entre ceux qui lui ressemblent et qui pensent comme lui et les autres. Nous parlons ici d'une question complexe, une sorte de jeu des influences et des amitiés avec d'autres chrétiens. Internet et les réseaux sociaux ont compliqué cette question, permettant de diffuser des propos sans grâce au nom de Dieu et de recueillir beaucoup de likes, de commentaires positifs. Jésus a dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Si vous communiquez l'abondance de la vie chrétienne, votre foi sera contagieuse. Au fond de nous, nous savons, et les jeunes chrétiens ou les pas encore chrétiens qui fréquentent nos églises savent que quand Jésus parle de l'abondance, il ne parlait pas d'une abondance de réunions ou d'une abondance de règles. Il parlait d'une abondance de sens et de sérénité malgré les épreuves de la vie. En conclusion, la grâce de Dieu est visible en Jésus. Vous voulez savoir comment rayonner la grâce, comment irradier la grâce? Relisez les évangiles. Faites-le de toute façon au moins une fois par an. Mais la grâce imitable de Dieu est superbement visible lorsque Jésus s'entretient avec l'aveugle Bartimée, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine près du puits, lorsqu'il se montre à Marie le matin de Pâques. La grâce de Dieu en Jésus s'observe aussi de manière particulièrement percutante dans son approche des disciples. J'aime relire les évangiles en me concentrant sur ce que Jésus faisait et disait dans ses relations avec les disciples. Il les valorisait d'une manière touchante. Il y a quelques années, j'ai observé un incident qui m'est resté comme illustration particulièrement belle de la manière dont Dieu nous traite avec grâce. Pardonnez-moi si vous avez déjà entendu cette histoire. J'ai dû la raconter au CFB, je ne sais pas combien de fois. J'ai dû la raconter aussi dans différentes églises, de vos églises où je suis passé. Il s'agit d'une jeune fille que j'ai connue il y a quelques années. J'étais moniteur d'école du dimanche. J'appellerai pour les besoins de l'histoire cette jeune fille Justine. Il n'y a pas de Justine ici ? Non, c'est bon. Justine venait d'une famille compliquée, conjugalité compliquée. Les services sociaux avaient remis la garde au papa parce que la maman de Justine vivait dans un squat avec une dizaine d'hommes. Et le papa de Justine, pas sorti d'affaire, vivait avec une femme, avait fait profession de foi, tous les deux sont revenus, mais pour la femme avec qui il vivait, pas question de se marier parce qu'elle avait déjà vécu de mariage. Bon, vous imaginez la situation pastorale. Justine avait, 6 ans, je crois, peut-être, 5-6 ans. Et donc moi, j'avais enseigné, c'était après l'école du dimanche, donc j'étais en train de ramasser mes affaires, de ranger les stylos, de décoller les patchs de colle sur la table, etc., etc. Et il y avait dans cette salle d'école du dimanche une table de baby-foot. Et comme d'habitude, deux ou trois des enfants d'autres classes se sont montés et sont mis à jouer au baby-foot. Et il y avait donc trois garçons, deux qui devaient avoir 7-8 ans et un qui en avait 12-13. Et donc celui qui était plus grand s'est mis d'un côté du baby-foot et les deux autres étaient en face de lui comme adversaire et donc la partie s'est engagée. Sur ce, Justine arrive et se met au bout du baby-foot, comme ça, accoudé, en train de regarder ces trois grands garçons en train de jouer au baby-foot. Et on le voyait sur son visage, elle avait tellement envie de jouer avec eux. Et donc, la partie se joue, et les deux plus jeunes gagnent, battent le plus grand. Sur ce, la discussion, on fait la revanche. Alors ils décident de faire la revanche, et là, Justine a levé la voix, elle a dit, moi je veux jouer, qui me veut dans son équipe ? Littéralement, qui me veut dans son équipe ? Vous savez, les garçons de 13 ans, 7-8 ans, ils ne sont pas très connus pour leur sensibilité dans ce genre de situation. Moi, je m'occupais avec mes crayons, mes stylos. Et puis, il y a eu un moment d'hésitation quand même. Et puis le plus grand, il a dit, « Moi, je te veux, viens, on va les battre. » Vous auriez dû voir le regard de Justine. Vous auriez dû voir cette petite fille, la joie de se savoir voulu dans une équipe. J'aurais pu dire, que j'ai oublié de le dire au début, un des problèmes de Justine, c'est qu'à cause de sa vie familiale, elle n'avait pas reçu les soins d'orthodontie qu'elle aurait dû recevoir. Et donc son surnom à l'école, c'était la Guenon. Pour vous dire un petit peu le vécu de cette petite fille. Et pour vous dire un peu ce que ça signifiait qu'un garçon de 13 ans vienne lui dire « Je te veux, on va les battre ». Et le regard que Justine a jeté ce jour-là, peut-être qu'en moi, dans mon être intérieur, a réparé quelque chose du regard que j'avais vu sur le visage de Pierrot quelques années auparavant. Parce que j'y ai vu tout ce que Dieu nous dit et tout ce qu'il sollicite de notre part lorsque nous réagissons vraiment à sa grâce. J'ai déjà dit que Paul a écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens chapitre 4. Si l'apôtre Paul nous entendait évangéliser, que nous dirait-il ? Quand nos contemporains nous regardent, observent-ils la grâce à l'œuvre dans notre vie ? Quand ils écoutent notre témoignage, quand ils entendent-ils la mélodie de la grâce dans nos propos ? C'est un défi. Et c'est le défi que nous avons tous à relever chaque jour que Dieu nous donne vie sur terre. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu as entendu tout ce que nous avons dit, tu as entendu aussi les pensées que nous avons pensées pendant que moi je parlais, pendant que mes amis ici m'écoutaient. Je te demande de prendre toutes ces pensées, toutes ces paroles, aussi ce que nous avons entendu hier et ce matin, ce que nous nous sommes dit entre nous, et je te demande de les prendre et d'en faire quelque chose de beau, d'en faire, Seigneur, du terreau qui va encourager la grâce qui est déjà là, déjà à l'œuvre dans nos vies, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles. Nous nous en remettons à toi pour le rayonnement par nous de ta grâce. Amen.